RFI.
Vous êtes bien à l'écoute de RFI. Tout de suite, c'est Afrique Midi avec vous, Grégoire Morelli. Bonjour.
Bonjour Olivier, bonjour à toutes et à tous. Afrique Midi, c'est parti. Nous sommes ensemble pour une demi-heure avec, pour commencer, le journal consacré à l'actualité du continent africain. À la une, la Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara, a dit oui, il sera candidat à la présidentielle d'octobre. Il est en train de s'exprimer devant plusieurs dizaines de milliers de personnes réunies au stade Ebimpe. On sera en direct de la capitale économique Abidjan dès le début de ce journal. Nous serons aussi au Nigeria où se tient le sommet de la CEDEAO. Il sera question entre autres des relations avec les trois pays de l'AES et il faudra également désigner le successeur du Nigérian Bola Ahmed Tinubu à la présidence tournante de l'organisation sous-régionale. En RDC, le président Tshisekedi a reçu les évêques catholiques de la CENCO et les pasteurs protestants de l'ECC. Ils lui ont remis le rapport de leur mission portant sur le pacte social qui s'inscrit dans le cadre de la recherche de la paix dans la région des Grands Lacs. La RDC encore, où les autorités ont prolongé pour 3 mois l'interdiction d'exportation de cobalt et ce en raison d'une surabondance de l'offre qui a fait chuter les prix. Le RHDP a décidé hier de porter la candidature du président ivoirien Alassane Ouattara à l'élection du 25 octobre et la réponse de l'intéressé est arrivée. Alassane Ouattara a déclaré être candidat. Nous serons en ligne avec notre correspondante Bintan Diagne un peu plus tard dans notre journal pour revenir justement sur cette annonce de candidature. Un sommet de la CEDEAO se tient à Abuja aujourd'hui, dans la capitale du Nigeria. Les chefs d'État de l'organisation régionale qui y participeront feront le constat d'une institution à la recherche d'un nouveau souffle 50 ans après sa création et au moment où le président en exercice, le Nigérian Bola Ahmed Tinubu, doit passer la main. Il pourrait bien passer le témoin à son homologue sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, qui est pressenti pour prendre le relais. Nous sommes en ligne avec Moïse Gomis. Bonjour.
Bonjour.
Correspondant de RFI au Nigeria, alors la cérémonie a-t-elle commencé?
Cette 65e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement n'a pas commencé et c'est avec plus de 2h30 de retard que cette session devrait prendre ici à Abuja dans le palais présidentiel du Nigeria. Sur les 12 chefs d'État, 4 sont absents, ceux du Cap-Vert, de la Côte d'Ivoire bien sûr, du Togo et aussi celui de la Guinée, puisque le pays est toujours en cours de transition. Les dirigeants des pays membres vont se retrouver dans cette grande salle dans quelques instants, mais pour l'instant, ils sont toujours à huis clos, car aujourd'hui, ce sommet, c'est un sommet surtout pour élire le prochain président de la conférence des chefs d'État et de gouvernement. Et ici, dans cette immense salle de la présidence nigériane, le nom du président sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, revient beaucoup dans les conversations. Dans l'ordre du jour de ce sommet, Omar Aliou Touré, le président de la commission, doit faire un point sur les consultations tenues avec le Burkina Faso, le Mali et le Niger en vue de la préparation des négociations suite à leur retrait de la CEDEAO. Il évoquera également le processus en cours de transition en Guinée. Et normalement, le sommet devrait se terminer autour de 17h locales, soit 18h à Paris. Et le président Bola Ahmed Tinubu devra remettre à ce moment-là les emblèmes de la CEDEAO à son successeur, qui deviendra alors pour un an le président de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO.
Merci à vous, Moïse Gomis, correspondant de RFI au Nigeria, pour toutes ces précisions. Direction la République démocratique du Congo. Le président Félix Tshisekedi a reçu les évêques catholiques de la CENCO et les pasteurs protestants de l'ECC. Après 3 mois de consultations tous azimuts, ils lui ont présenté les premières conclusions de leur rapport objectif, la mise en place d'un pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble. Très peu d'informations ont filtré et aucun communiqué n'a été publié. Mais le chef d'État congolais s'est montré ouvert à l'initiative, c'est en tout cas ce qu'a expliqué Monseigneur Donatien Enchol, secrétaire général et porte-parole de la Conférence épiscopale nationale du Congo.
C'était un entretien très serein, on en a parlé pendant 2 heures du temps. Le but de cette réunion, c'était de lui faire le compte rendu des consultations que nous avons faites, parce que quand nous l'avons vu la dernière fois, il nous avait demandé de lui laisser le temps pour qu'il s'imprègne la feuille de route. Au finish, il a donné ses avis sur certains aspects. Il y a un rapport qui va être publié prochainement. Il nous a demandé de continuer à travailler avec son équipe technique pour approfondir la chose. Nous sommes dans une dynamique d'organisation tripartite. Il y a l'Union africaine, il y a la facilitation de l'Église, il y a bien sûr le gouvernement qui doit être le socle. Nous avons vraiment apprécié qu'il ait finalement désigné les gens avec qui nous allons régler ce qu'il y a à régler pour aller de l'avant.
Monseigneur Donatien Tchol, secrétaire général et porte-parole de la Conférence épiscopale nationale du Congo. C'était au micro de Paul Lorgerie. Cette rencontre, l'opposition la salue. Prince Epengue, porte-parole de la coalition Lamouka de l'opposant Martin Fayoulou, appelle ce matin, je cite, les enfants du Congo à se retrouver autour de la table pour se réconcilier, se pardonner et sauver l'unité du Congo menacée. La RDC toujours avec ce minerai bleu devenu indispensable pour faire fonctionner la plupart de nos appareils électriques. Les autorités serrent la vis autour, vous l'aurez compris, du cobalt. Kinshasa a annoncé hier la prolongation pour 3 mois de la suspension des exportations de ce minerai dont le pays est le premier producteur mondial. La mesure s'inscrit dans le cadre de la stabilisation du marché international du cobalt en raison d'une surabondance de l'offre qui a fait chuter les prix. Les précisions de Pascal Moulégois.
C'est la deuxième fois cette année que la RDC gèle ses exportations. En cause, une chute vertigineuse des prix. Le cobalt se vend autour de 33 000 dollars aujourd'hui la tonne, contre plus de 80 000 dollars en 2022. Une dégringolade avec de lourdes conséquences. Le cobalt représente à lui seul jusqu'à 20% des exportations du pays. Toutes les formes d'exploitation sont frappées, industrielles, artisanales, semi-industrielles ou encore à petite échelle. L'ARCOMS, l'autorité de régulation des minerais stratégiques, affirme qu'elle prendra une nouvelle décision avant la fin de cette période suspensive, une décision qui pourra prolonger, modifier ou lever l'interdiction. Ce n'est pas la première fois que la RDC tente de reprendre les contrôles de ces marchés stratégiques. Il y a un an, le président Félix Tshisekedi évoquait déjà l'idée d'introduire des quotas d'exportation pour faire remonter les cours. Reste à voir si cette stratégie portera ses fruits face à une demande mondiale en constante évolution, notamment avec l'essor des véhicules électriques qui reposent massivement sur ce métal bleu. Pascal Moulégois, Kinshasa, RFI.
Je vous l'expliquais en début de journal, Alassane Ouattara s'est exprimé au stade Ebimpe devant des dizaines de milliers de personnes. Il a annoncé sa candidature. Je vous propose d'écouter le chef d'État ivoirien.
Chers militantes et militants du RHDP, du nord, du sud, du centre, de l'ouest, de l'est, jeunes, femmes, commerçants, enseignants, fonctionnaires, planteurs, cadres du parti, vous m'avez dit avec foi, avec force, avec tendresse souvent, et Patrick Hachim l'a bien relayé, vous m'avez dit, président, encore une fois, oui, vous m'avez dit, président, ne nous abandonnez pas. Après tant de batailles menées ensemble, je ressens la force et la sincérité de votre appel. Ces appels, je ne peux pas les ignorer. Je ne peux pas les ignorer, je les ai bien entendus. Et je dis avec émotion, oui, je vous ai entendu.
C'est donc officiel, Alassane Ouattara sera bien candidat du RHDP. Alassane Ouattara, ado comme on l'appelle, va donc briguer un 4e mandat. Il avait déjà été désigné candidat par le parti, mais désormais c'était lui qui devait se prononcer sur cette question. C'est désormais chose faite. Dans le reste de l'actualité du continent, au Tchad, le Conseil de l'Ordre des Avocats du pays tape le poing sur la table alors qu'il demande l'ouverture d'enquêtes sérieuses pour juger les différents responsables des tueries de ces dernières semaines. L'Ordre des Avocats constate également le rétrécissement de l'espace d'expression et de jouissance des droits et libertés fondamentaux. Un phénomène qui inquiète grandement Maître Gerandi Laguerre Dionro, le bâtonnier de l'ordre qui observe la multiplication des arrestations hors de toute procédure légale.
Nous constatons des enlèvements ou des arrestations sans respect des procédures, souvent par des personnes qu'on ne peut pas identifier et sans que les parents, la famille ne sachent où est-ce que cette personne a été amenée, quelquefois pendant des jours, des semaines, mois. Et c'est plus tard, on se rend compte que c'est la personne se retrouve après des recherches, hein. La personne se retrouve dans les services de renseignement, ça peut être des militants des droits de l'homme, ça peut être des gens qui prennent des positions sur les réseaux sociaux, ça peut être des militants des partis politiques. Vous voyez, c'est une situation qui préoccupe. Aujourd'hui, les manifestations, etc., sont systématiquement interdites. Ajouter à cela toutes ces violences dans nos provinces, l'expression des droits et libertés ne peut que poser problème dans ces conditions-là. C'est pourquoi nous avons estimé que l'espace d'expression se rétrécit et nous appelons le gouvernement également à prendre des dispositions idoines à ces propos.
Maître Djarandi Lagouaré, John Rowe, bâtonnier de l'ordre des avocats au Tchad. En Tunisie, une chambre spécialisée dans les affaires de terrorisme a prononcé vendredi une peine de 22 ans de prison à l'encontre de Moncef Marzouki et de deux de ses proches pour atteinte à la sûreté de l'État, bientôt âgé de 80 ans. Le premier président tunisien post-révolution arabe avait déjà été condamné à 4 et 8 années dans deux autres affaires. Actuellement en exil, il considère que ces peines ont pour but de l'empêcher de rentrer chez lui et plus largement de museler l'opposition politique. Écoutez sa réaction.
Je suis triste parce que, d'abord, je ne suis pas le seul. Il y a eu plusieurs personnes qui ont été aussi condamnées à la même peine. Et ensuite, il faut mettre cette peine de prison dans le cadre général, puisqu'aujourd'hui, en Tunisie, vous avez pratiquement toute la classe politique en prison. Ceux qui sont actuellement en prison ou en exil, c'est la quintessence de la classe politique tunisienne, avec tout le spectre. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre, à savoir que ce n'est pas un homme qui tire sur un groupe politique particulier. Il a tapé sur tout le spectre politique, de telle façon qu'il n'est plus que lui qui existe pour un pays qui a fait une révolution dont l'objectif, justement, était d'installer une démocratie. C'est quand même un drôle d'échec. Je me sens un peu responsable de cet échec, puisque je fais partie de toute l'équipe qui a essayé de mettre en place cet état de droit, mais apparemment, on n'a pas réussi. De nouveau, une dictature bête et méchante qui revient exactement aux mêmes techniques que Ben Ali, en pensant que cette fois-ci, ça va marcher. C'est-à-dire que cette fois-ci, la dictature va réussir. Là aussi, la dictature va échouer. Que d'énergie, que de temps perdu.
Tunisie toujours, où malgré le retour forcé depuis la Libye de la caravane tuniso-maghrébine pour Gaza, appelée Soumound, la mobilisation pour les Palestiniens ne faiblit pas. Les délégations de plusieurs pays refoulés en Égypte lors de la marche mondiale pour Gaza se sont retrouvées en Tunisie ce week-end pour planifier une nouvelle action collective. Des délégations grecques, péruviennes et espagnoles étaient également présentes dans la capitale tunisienne. Du sport. Le mondial des clubs de football se poursuit aux États-Unis et après Manchester City, un autre grand d'Europe se dresse devant le Wydad. Les Casablancais ont rendez-vous aujourd'hui avec la Juventus Turin. Tout autre résultat qu'une victoire leur ferait quasiment dire adieu au huitième de finale, Baptiste Leduc.
Jouer sa survie dans une compétition contre le club le plus titré d'Italie, on a connu plus simple. Mais pas question pour le Wydad d'être fataliste. Le milieu burkinabé des Casablancais, Stéphane Aziski, aborde ce match avec le sourire.
Pour être franc, pour être honnête, on n'a pas de pression. C'est une compétition où tout le monde a sa chance. Il y a une autre opportunité qui se présente et c'est à nous de la saisir et c'est à nous de donner ce qu'il faut. Et on est positif.
La mission qualification est lancée. En bon stratège, l'entraîneur Mohamed Hamid Ben Hachem a tout prévu pour faire déjouer les Turinois.
Surtout, on sait bien que le style de jeu de la Juve est un peu spécial, avec une animation offensive très rapide et très directe et avec une agressivité défensive. Donc c'est ce qu'on a préparé un peu, comment on va gérer ces plans-là. On a mis un plan de jeu et espérons qu'on va le mettre en place.
La vieille dame est prévenue, Ton Koopmeiners, milieu néerlandais de la Juve, voit le piège arriver.
On les a vus jouer contre City et ils n'étaient pas loin de marquer. Et puis on n'a jamais rencontré ce genre d'équipe, cette culture du foot, donc on devra être à fond pour gagner.
Autre paramètre à intégrer, peut-être au plan du Wydad, la température. Une forte canicule s'apprête à frapper l'Est des États-Unis. Baptiste Leduc, Philadelphie, RFI.
Wydad AC contre la Juventus Turin, le coup d'envoi, ce sera à 16h, temps universel. Et plus d'une centaine de bronzes du Bénin, des artefacts pillés durant la colonisation, ont été officiellement restitués ce samedi au Nigeria lors d'une cérémonie au musée national de Lagos. Les 119 objets pillés dans l'ancienne ville d'Edo, aujourd'hui Benin City, sont arrivés ce jeudi sur place pour être bénis par le roi local, l'Oba de Bénin. Quatre des artefacts volés en 1897 lors de la prise de la ville d'Edo par les Britanniques étaient présentés ce samedi à Lagos, donc lors de la cérémonie officielle, Lisa Fabien.
La sélection qui a été présentée ce samedi à Lagos inclut une tête sculptée de l'Oba de Bénin, une défense d'éléphant richement travaillée, un oiseau et un petit léopard en bronze. Ces objets seront intégrés à la collection permanente du Musée national du Nigeria, alors que la plus grande partie des 119 artefacts restitués par les Pays-Bas cette semaine seront conservés à Benin City, dans le palais du monarque actuel. C'est jusqu'à présent la plus importante restitution de bronze du Bénin au Nigeria. Mais l'Allemagne a déjà signé un accord pour le retour de plus de 1000 objets pillés, a déclaré ce samedi Oluk Bile Holowell, le directeur général de la Commission nationale pour les musées et les monuments. Dans son discours, celui-ci a rappelé que ces artefacts sont l'incarnation de l'esprit et de l'identité du peuple auquel ils ont été retirés. De son côté, l'ambassadrice des Pays-Bas pour la coopération culturelle a déclaré que le Nigeria a besoin de retrouver son histoire et son héritage. Elle a aussi estimé que l'accord signé avec l'Allemagne renforce l'élan international de plus en plus fort pour corriger les erreurs du passé.
Lisa Fabian, restez avec nous. RFI Midi, ça continue. Afrique Midi. Et à suivre, durant les 15 prochaines minutes sur la radio du monde, de la littérature, Le Bon Denis. C'est le titre du nouveau livre de Marine Diaye. L'écrivaine revient sur son géniteur et son absence. Et puis, nous ferons un détour par Paris où se tenait cette semaine l'Africa Fashion Up, un événement qui célèbre l'excellence des talents du continent africain. Maria Afonso y allait pour vous.
L'Afrique en marche.
Mais avant cela, de la difficulté de trouver un emploi en rapport avec ses qualifications, de la problématique à trouver un employé en adéquation avec le profil du poste à pourvoir, la jeune start-up Mansa Talents en Guinée vient de mettre au point un site internet permettant de faire se rencontrer ceux qui cherchent à travailler ensemble. L'Afrique en marche, c'est avec Frédéric Gara.
Au salon Vivatech, qui vient de refermer ses portes à Paris, la Guinée a présenté pour la première fois une demi-douzaine de start-up parmi les plus innovantes dans le pays. L'une d'elles, Mansa Talent, était représentée par son cofondateur, Emmanuel Tamba Milimono.
L'objet et la philosophie de la start-up, c'est aujourd'hui de faciliter la connexion entre les jeunes talents et les entreprises et permettre aujourd'hui aux entreprises d'accroître leur potentiel de recrutement en utilisant les technologies les plus récentes, notamment l'intelligence artificielle aujourd'hui, non seulement pour gagner en temps, mais trouver aussi des profils qualifiés pour faciliter vraiment l'insertion professionnelle des jeunes.
Pourquoi, il y avait un manque à ce niveau-là en Guinée jusqu'à maintenant ?
Jusqu'à maintenant, il y avait un manque énorme en Guinée parce que les processus de recrutement se faisaient de manière classique à travers les boîtes mail et ce n'était pas évident, vous recevez des centaines de mails. Et le marché en Guinée, il est en pleine croissance et il y a des entreprises que lors des appels d'offres qui se retrouvaient à moins d'une heure avec 3000 candidatures. Donc pour un humain, un gestionnaire RH, ce n'est pas évident. Et tellement que le chômage, il est accentué, il arrivait des moments ou même ceux qui n'ont rien à voir avec le profil, postulaient en espérant avoir quand même un job. Donc c'était compliqué pour les recruteurs, ils se retrouvaient avec des profils qui n'ont rien à voir avec ceux qui demandent. Donc nous, on a développé la plateforme pour leur permettre de filtrer facilement, de les connecter aux talents. Il y a une messagerie intégrée pour interagir, pour recevoir des documents, pour planifier les rendez-vous. C'est vraiment le tout du recrutement.
Conducteurs d'engins, commerciaux, commis de cuisine ou encore comptables, Mansa Talent se charge donc sur un site dédié d'ordonnancer les CV et les appels à candidature des entreprises qui recrutent. Emmanuel Tamba Milimono nous fait une démonstration sur son ordinateur.
Donc vous avez un tableau qui récapitule toutes les offres d'emploi. Et ici, vous avez la possibilité de modifier l'offre d'emploi, de la voir. Si vous souhaitez la voir, vous avez toutes les informations.
Par exemple, là, c'est quoi ? On cherche un responsable marketing ?
Un responsable marketing. Là, vous avez la description du poste. Et si vous avez envie de prolonger l'offre d'emploi, au cas où vous n'avez pas trouvé le talent que vous recherchez, vous pouvez prolonger l'offre ou vous pouvez tout simplement la modifier. Si vous avez trouvé que certaines exigences sont très élevées, vous pouvez fermer ou même la dupliquer ou même l'archiver carrément.
On a souvent des cas de figure de CV qui sont ou faux ou exagérés avec des diplômes ou des brevets qui ne sont pas vraiment les bons. Comment vous gérez ça ?
Je suis totalement d'accord et c'est pourquoi chez Mansa, nous avons aussi l'aspect certification des profils. Alors lorsque le candidat il est sur la plateforme, il peut faire certifier son profil et nous, nous avons la capacité de faire vérifier ses informations.
Certifier comment ?
Ok, alors là, on développe un partenariat avec le ministère de l'Enseignement supérieur de la République de Guinée qui a aujourd'hui une base de données pour tous les diplômes en République de Guinée. Donc, il suffit de mettre la référence du diplôme. Vous savez si la personne a le diplôme ou pas.
Je saurai si vous avez votre baccalauréat ou pas.
Ça, c'est certain. Et je l'ai d'ailleurs. Mention très bien.
Mansa Talent, une start-up guinéenne qui a pu voir le jour grâce à l'appui de l'Agence nationale du service universel des télécommunications, l'ANSUT. Fatou Silla en est la directrice générale adjointe.
On a deux types d'accompagnement. On a un accompagnement technique
où nous-mêmes, on va rentrer en contact avec des consultants, des cabinets internationaux qui vont nous aider à l'incubation rapide et méthodologique de ces startups-là. On a aussi l'accompagnement financier, mais ce n'est pas un financement intégral. On va en partenariat avec des banques où nous donnons une caution aux banques. Les banques leur permettent d'avoir des crédits pour pouvoir porter leur projet à maturité et avoir un investissement pour la production.
Mansa est allé voir une banque et vous, l'État guinéen, vous êtes porté caution.
Exactement. On porte caution et on accompagne aussi techniquement à travers le financement des cabinets d'accompagnement technique.
L'application de recrutement Mansa Talent simplifie donc le processus de recherche et de recrutement en Guinée. Chaque année, on estime à 200 000 le nombre de jeunes Guinéens qui arrivent sur le marché du travail.
Frédéric Gara et ce reportage, vous pouvez le réécouter sur notre site RFI.fr.
Grégoire Morelli.
Et à la une de l'actualité internationale de ce dimanche 22 juin, les États-Unis ont bombardé trois des principaux sites du programme nucléaire iranien. Des frappes accusées par Téhéran de faire exploser les chances d'un règlement diplomatique du dossier nucléaire au 10e jour de la guerre entre l'Iran et Israël. L'agence de presse iranienne IRNA a ensuite fait état du tir de 40 missiles sur Israël qui ont fait de nombreux dégâts et 16 blessés selon les services de secours israéliens. Ces attaques américaines auront des conséquences éternelles, a averti le ministre iranien des Affaires étrangères, affirmant que l'Iran se réservait toutes les options pour défendre sa souveraineté, ses intérêts et son peuple. La chef de la diplomatie de l'Union européenne, Kaya Kallas, a appelé à une désescalade et à un retour aux négociations. Elle a ajouté que l'Iran ne devait pas être autorisé à développer une arme nucléaire, décrivant cette possibilité comme une menace pour la sécurité internationale. Et sachez qu'aucune hausse des niveaux de radiation n'a été signalée aux abords des trois sites nucléaires iraniens qui ont été visés par ces frappes américaines, selon l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'AIEA. Le bon Denis, c'est le titre du nouveau livre de Marine Diaye, publié dans la collection Traits et Portraits. Campé entre fiction et autobiographie, il aborde les secrets de famille d'Ndiaye, famille tiraillée entre Denis et Denis. Les admirateurs de l'auteur des Trois femmes puissantes retrouveront dans ses pages la tonalité et l'imagination audacieuse de cette romancière au souffle faulknerien. Voici le premier des deux volets de Tirthankar Chanda qui consacre donc un entretien avec ce nouvel ouvrage de Marine Diaye.
Conteuse hors pair des heures et malheurs de nos sociétés modernes, Marine Diaye est une auteure envoûtante. Les critiques évoquent la magie de son écriture, l'élégance et la force de son phrasé à nul autre pareil, comme l'illustre le nouveau livre que l'écrivaine vient de faire paraître, son titre, « Le bon Denis ». Autoportrait littéraire, le bon Denis s'ouvre sur une phrase quasi proustienne, longue et poétique. On est touché par la musicalité de la phrase, son errance tout en trébuchement et pourtant si maîtrisée. S'agit-il d'inspiration pure ou est-ce le résultat d'un long travail sur le style, sur l'écriture? La réponse fuse. Marine Diaye.
Je voudrais vous répondre les deux. Ça vient très spontanément dans la longueur et dans le rythme, mais après la musicalité de la phrase, je la travaille. Mais ce qui vient en premier, c'est une sorte d'inspiration, quoi. La phrase me vient et après mon métier, c'est de la travailler.
Marine Diaye pratique son métier d'écrivaine depuis fort longtemps. Cette année, cela fait exactement 40 ans qu'elle a publié son premier roman. Quant au riche avenir, c'était en 1985. Elle était encore lycéenne dans la banlieue parisienne, avec à son actif plus d'une vingtaine de romans, de pièces de théâtre, de contes pour enfants. Marine Diaye s'est imposée depuis comme l'une des auteures les plus importantes de sa génération. Dans sa besace, les récompenses les plus prestigieuses du monde littéraire français, Goncourt, Féminin, pour ne citer que cela. Les récits de Marine Diaye puisent en grande partie leur inspiration dans la propre condition de leur auteur, métisse franco-africaine, élevée par une mère bosseronne. À mi-chemin entre roman et autofiction, le nouvel opus ne déroge guère à la règle. Il est paru dans la célèbre collection « Traits et portraits » des éditions Mercure de France, qui a fait sa réputation en remettant au goût du jour l'autoportrait littéraire. Le bon Denis est le second volume que publie Marine Diaye dans cette collection. Après avoir livré il y a 20 ans un étonnant autoportrait en vers, c'est son titre, consacré à sa mère. Cette fois, c'est le père africain, disparu de la scène familiale depuis belle lurette, qui est au cœur du dispositif narratif du nouveau titre, Marine Diaye.
le père disparu dans les deux sens du terme, le père envolé comme le père mort, mais c'est aussi le beau-père disparu, le père de substitution, mais Denis, c'est aussi un frère. Mais le bon Denis, c'est au sens qui est le vrai, quoi, d'exact. En fait, la figure, le nom, l'image d'un certain Denis traverse les quatre fragments de ce récit. Et Denis devient peut-être le prénom d'une figure idéale, mais trouble aussi. C'est une sorte de fantôme.
La présence fantomatique de Denis, père de substitution, hante les pages de ce nouveau livre. Ses traits se superposent à la figure du père réel, mais absent, marginalisé dans cette œuvre des origines que bâtit Marianne Diaye depuis quatre longues décennies, avec constance et art. Constance et art seront les thèmes du second volet de cette chronique consacrée à l'art de la narration chez celle que la critique a pris l'habitude d'appeler la plus grande écrivaine contemporaine française.
Tirtan Karchanda. Ce jeudi 26 juin, en marge de la Fashion Week à Paris, se tenait l'Africa Fashion Up, un événement qui célèbre l'excellence des talents du continent africain. Valérie K, promotrice engagée de cette initiative, dont France Média Monde est l'un des partenaires, met en lumière la diversité et la créativité des créateurs africains, souvent sous-représentés sur la scène mondiale. Maria Afonso. Pour rien comme
ça, on te jaloux. Moi, j'adore créer, hein. C'est pas que la mode, hein. Moi, je suis aussi dans l'architecture. La création, déjà, j'en fais pour moi, les vêtements, parce que j'avais ma collection. J'ai réfléchi peut-être à relancer ma marque.
Valérie K, mannequin et promotrice d'Africa Fashion Up.
Je voulais qu'on comprenne de suite qu'on parle d'Afrique et Up, parce que je voulais montrer ce qu'il y a de haut, de meilleur, maintenant.
Valérie K, entrepreneuse, est née en Côte d'Ivoire. Passionnée par l'architecture, la décoration d'intérieur, la mode, elle débute très tôt une carrière dans le mannequinat, collaborant notamment avec Alfadi, créateur de mode, surnommé le magicien du désert. Animée par le désir de promouvoir la diversité et l'excellence de la création africaine, et constatant le manque de plateforme pour les créateurs africains, Valérie K lance en 2021 Africa Fashion Up lors de la Fashion Week de Paris.
On va chercher les meilleurs designers et puis s'inscrire et après... Tu es au fin fond de l'Afrique et puis on te dit tu viens représenter ton pays, tu viens montrer ce que tu sais faire et tout de suite tu es pris dans une espèce de tourbillon parisienne de la Fashion Week. Les jeunes designers, on leur demande de présenter ce qu'ils ont déjà fait, s'ils ont une collection, un lookbook, leur histoire, leur parcours. Des belles designers, on va leur demander en plus leur chiffre d'affaires, s'ils sont déjà vendus en boutique, qu'elles sont déjà représentées. Parce que ces belles designers, on leur donne aussi l'occasion de pouvoir vendre aux Galeries Lafayette. Et ils montrent tout, ce qu'ils ont déjà fait avant, ce qu'ils prévoient de faire après. Et ensuite, on a des ambassadeurs sur place dans les différents pays. Et on leur demande quand même de valider ou d'aller voir les collections pour être sûr que ça correspond à ce qu'on nous envoie.
Malgré les défis financiers et logistiques, Valérie K fait évoluer la perception de la mode africaine en structurant un écosystème compétitif au niveau international. Elle mobilise des partenaires prestigieux autour d'Africa Fashion Up.
Il y a trois formations qu'on leur apporte. Il y a la partie fashion mode, qui sont accompagnés avec Balenciaga. Donc ils ont des mentors qui sont présentés juste après la sélection, avant même qu'ils arrivent à Paris. Ensuite, on a une formation avec HEC, donc c'est la partie business, marketing, création d'entreprise, sur la partie aussi du luxe. Il y a aussi des mentors pour les aider à développer leur entreprise. Et ils ont aussi des masterclass avec les responsables et directeurs des Galeries Lafayette.
Pour découvrir l'univers de Valérie K, retrouvez la version longue en podcast sur RFI.fr, chronique 100% création, et sur RFI, Pure Radio.
Et c'est sur les podiums et sous les projecteurs de l'Africa Fashion Up que se termine cette édition d'Afrique Midi. Je vous rappelle tout de même l'information principale de la mi-journée. Le président ivoirien Alassane Ouattara qui a annoncé aujourd'hui qu'il prendrait une décision dans les jours qui viennent concernant sa candidature à la présidentielle d'octobre pour briguer un quatrième mandat à la tête du pays. Il a tenu ses propos lors d'un grand meeting au stade des Bimpé d'Abidjan devant des dizaines de milliers de personnes. Merci à vous en tout cas de nous avoir écouté et d'avoir été fidèle à RFI. À la réalisation aujourd'hui, c'était David Brockway. À la rédaction en chef, Karine Franck. Merci à eux. Le prochain journal avec Mathis Limano, ce sera d'ici une bonne minute. On parlera évidemment de ces frappes américaines sur les principaux sites nucléaires iraniens. D'ici là, très bonne suite des programmes à l'écoute de la Radio du Monde.
Priorité santé.
Caroline Paré vous invite à poser vos questions sur les thèmes de cette semaine. Demain.
Prévention et prise en charge des infections urinaires.
Mardi.
Ozempic, quelle efficacité dans le traitement de l'obésité?
Contactez-nous sur WhatsApp au 33 7 61 18 46 41 ou à priorité.santé@rfi.fr.
Priorité Santé avec Suno Assurance.
Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU sur RFI.
Ce lundi sur RFI.
Pourquoi l'exploration c'est de famille chez les Picards?
Autour de la question, Caroline Lachowski.
Son grand-père est le premier à avoir volé dans la stratosphère, inspirant à Hergé le professeur Tournesol. Son père le premier à avoir plongé dans les abysses en bathyscaphe. Quant à Bertrand, il a réussi le premier tour du monde en avion solaire 1, 2, 3 Picard en BD.
Autour de la question, demain à 14h10 TU sur RFI.